Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On fait le match. C'est la 29e de la saison et ça me fait bien plaisir. 29, on salue les auditeurs du Finistère. Et oui, comme vous tous par ailleurs d'ailleurs, qui êtes toujours aussi nombreux à nous écouter entre 18h30 et 20h. Émission 100% interactive que vous pouvez retrouver, vous le savez, via l'application qui réunit tous les podcasts de l'antenne de RTL et qui est actuellement, cette émission, également filmée. 20h-23h, le foot continue avec les 16e de finale de la Coupe de France, l'intégralité de Brest-Paris-Saint-Germain. Dans un instant, les premiers résultats. Il y a quelques surprises. Avec moi ce soir, Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous.
Dominique Sévrac du Parisien aujourd'hui
bonsoir
en France.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Dominique, partenaire du service des sports de RTL sur l'offre sportive du week-end vendredi, samedi, dimanche. Bonsoir Dominique. Florian Gazan, multithématique sur l'antenne de RTL, dont la grosse cote chronique fiction, pas toujours d'ailleurs, chaque samedi, 8h. Bonsoir Florian.
Bonsoir Christian, bonsoir tout le monde.
Et David Aiello, le couteau suisse dont fait le match, analyse, expertise sur le terrain, affaire institutionnelle parfois du football français. Bonsoir David.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Vos messages, à vous tous évidemment, à retrouver sur le compte @RTLFoot et relayé par Baptiste Durieux. Messieurs, au menu ce soir, Marquinhos, invité RTL Foot hier soir, et il reviendra d'ailleurs pour un second entretien au micro de Philippe Sanfourche, mercredi matin, jour de Paris Saint-Germain-Barcelone. Alors à l'écoute, eh bien, Marquinhos incarne la force tranquille du club parisien avant le match retour. Êtes-vous rassuré avant cette rencontre retour de Ligue des Champions? C'est la première question que je vous poserai. 19h, Marseille, les ultras ont pris le pouvoir, n'ayons pas peur des mots. Craignez-vous la contagion dans d'autres clubs? C'est un vaste débat. Et débat qui nous entraînera probablement pendant au moins 30 minutes. Sur la table également, Genesio Maurice, le gang des Lyonnais. Est-il un gage de sécurité, de réussite en tous les cas, pour le Stade Rennais qui maintenant a tourné la page Julien Stéphan? Et puis avant 20h, vous le savez, les tirs au but. Uniquement chez nous, tout le reste de l'actualité improvisée avec des questions que vous découvrirez. Et dans cette séquence, vous le savez aussi, les faibles seront éliminés au fur et à mesure.
Très peur.
Et puis alors une petite nouveauté. Voilà, je vous propose une petite nouveauté. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Je vais l'intituler la tchatch qui décoiffe. Restez avec nous. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Alors d'abord la Coupe de France, messieurs, car il y a des surprises. Et une surprise de dernière minute, Le Puy, équipe de National 2, qui vient de sortir Lorient, équipe de Ligue 1, pas très bien dans le championnat de France de Ligue 1, mais tout de même, 1-0 pour l'équipe du Puy. C'est une équipe donc de National 2 et c'est une surprise malgré un fort à l'amour en fin de rencontre, mais Le Puy a résisté. Bravo à cette équipe. Autre surprise sur le plan hiérarchique également, c'était cet après-midi le Red Star, club de National qui a éliminé Lens, bien placé, 5e, 6e, championnat
5e, 5e,
sur le score de 3-2. Jolie performance donc des joueurs du président Haddad. Autre surprise hiérarchique également, Rumi Vallière, club de National 2 qui élimine Annecy, club de National 1. 1-0 à la fin du temps réglementaire. Vous le savez, il n'y a plus de prolongation maintenant, on passe directement au tir au but. 6-5 pour l'équipe de Rumi Vallière. Autre résultat, mais la plus conforme à la logique, Montpellier Ligue 1 qui a sorti Alès, club de National 3, sur le score de 2-1. Et Saint-Louis Neuweg, ou Neuweg, dit-on, en Alsace. On s'est renseigné auprès de Yannick Holland. Donc Neuweg, Saint-Louis, qui s'incline, club de National 3, à domicile, devant Sedan, sur le score de 2-0. La suite du programme, 18h45, on suivra ça donc, dans un petit quart d'heure, Lyon-Sochaux, et à 21h10, donc Brest-Paris-Saint-Germain, avec toute l'équipe d'Éric Silvestro et de Xavier Domergue. Messieurs, la tchatch qui décoiffe, histoire de se mettre en jambe, de se faire un peu la voix, de vous chauffer également. Là, elle est servie sur un plateau. C'est la petite phrase de Noël Le Graët, la tchatch qui décoiffe, qui a dit cette semaine, finalement, l'équipe de France féminine, aucun match de perdu. Voilà ce que je retiens. Donc, elles peuvent se tirer les cheveux. Ça m'est complètement égal. Complètement, c'est moi qui le rajoute.
Ça, c'est capillaire.
Ça décoiffe beaucoup. Ça c'est une thématique.
Est-ce qu'il faut en faire un vrai pataquès? Est-ce qu'on peut. Voilà, ce que c'est pas du second degré.
Vous essayez de nous influencer, Christian. La manière dont vous posez la question, je suis assez choqué. Moi, effectivement, je pense qu'il faut en faire tout un pataquès.
On peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Bah oui, mais c'est comme ça. Faut vivre. Justement, nous on est là pour dire. Et je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Et je pense qu'on peut plus, avoir un président qui représente le football français de cette manière. C'est-à-dire que c'est passéiste. Je veux dire ça, c'est le football d'avant. On peut plus dire ces choses-là.
C'est totalement sexiste. C'est,
bon, déjà c'est sexiste, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'image que le football a un problème d'image dans la société de manière générale. Ils sont trop payés. Il y a les supporters qui parfois créent des incidents.
Alors, quand on dit qu'ils sont trop payés, c'est des magots. Est-ce qu'on peut le dire ou on peut pas le dire ?
Ce que je vous dis, en tout cas, c'est
voilà,
que le rôle. Mais le rôle, mais en tout cas, le rôle du
sexiste,
président
ça.
De la Fédération française de football, c'est de véhiculer une bonne image du football. On peut pas avoir un président qui fait. Je sais même pas si c'est un bon mot ou pas. Je sais pas s'il s'en rend pas compte ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il ne peut pas tenir ce genre de discours.
C'est un homme de 79 ans. Qui vit selon des codes.
Bah, qui vit avec son temps, son vieux
qui,
temps.
Voilà, qui, c'est un langage qu'on emploie souvent dans, quand on a cet âge-là. Ici, il gagne le 13 mars, ce qui est bien parti. Il va finir son mandat à 83 ans. Bon, je ne suis pas sûr que c'est ça dont ait besoin le football français, cette modernité. Ce n'est pas le président 2.0 qu'on pourrait imaginer. La France a élu un président de la République de 39 ans en 2017. On va peut-être donc finir avec un président de la fédération la plus puissante de France, de 83 ans, qui dit ce genre de choses dont on sait qu'il
non,
a...
Mais alors, le problème, c'est que vous faites aussi une discrimination du point de vue de l'âge.
Pas du tout.
Que vous ne soyez pas d'accord avec la petite phrase de Le Graët, on peut vraiment en discuter.
C'est son quatrième mandat, Christian.
Oui, non, mais il a aucun rapport. Mais aucun rapport avec cette petite phrase.
Non, mais c'est pas comme s'il n'avait pas pu se présenter, c'est pas comme s'il n'avait pas pu vivre, c'est pas comme je fais pas de discrimination là. Il a été président de la Ligue, il a été président de la fédération.
Est-ce que ça remet en cause l'engagement de la fédération pour le football féminin ? Voilà, moi je pose la question. Moi, j'essaie d'être pragmatique.
Mais c'est non, ce mais genre Christian, de petites phrases qui peuvent assassiner tout le travail non, qu'on a fait en amont.
Alors, Philippe Sanfourche.
Non, mais ce qui m'ennuie avec Noël Le Graët, c'est que c'est une accumulation. Il n'y a pas de racisme dans les stades. Sur l'homophobie, il n'a pas vraiment été dans une position absolument extraordinaire. Est-ce qu'il fallait arrêter les matchs ou pas ? Voilà, donc à mon avis, ça s'accumule quand même et ça donne une image de quelqu'un qui est quand même un petit peu dépassé, quoi. Et est-ce qu'on a envie de ça pour le football ? Et moi, il y a un truc qui me choque en plus dans cette histoire. Je trouve que c'est quand même la réaction des joueuses. Quand Wendy Renard qui dit en gros, oh, pff, c'est pas si grave, bah, quelque part, elle se tire une balle dans le pied. Il y a un moment aussi, on peut plus laisser passer des petits trucs comme ça sous prétexte, oh, c'est rigolo, il devait être sans doute à la fin du repas entre la poire et le fromage.
Elle a quand même dit,
mais non, c'est pas possible.
Il dit ce qu'il veut. Bah non, enfin, je veux dire, les joueuses aussi.
Ouais, mais elles ont leur responsabilité. Je trouve que sur ce coup-là, les joueuses n'ont pas été.
Justement, mais souvent voilà. Pour les joueurs ou les joueuses, on regrette qu'elles prennent pas position. Là, il y a quelque chose qui les concerne directement.
Peut-être qu'elles prennent un peu de hauteur, justement, par rapport à ce débat. Parce que là, vous êtes sur l'écume des choses, quoi. C'est-à-dire, on est en train de dresser un bilan, un portrait de Noël Le Graët, qui effectivement est un homme de 79 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, pour le football féminin ? Bah, il a organisé la plus belle Coupe du Monde féminine qu'il ait jamais eue et qui s'est formidablement bien passé avec des spectateurs, avec la preuve justement que la société française est parfaitement à l'unisson de ce qu'est aujourd'hui l'évolution du sport féminin. Noël Le Graët, ok, il a 79 ans, mais ce qu'on lui demande, c'est pas de faire le buzz et de faire de la com dans les médias.
Mais justement. Non, mais simplement.
C'est ce qui fait le bazar. C'est nous qui
faisons
le
bazar. Non,
non, non, non, non, non, non, non, non,
mais qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est nous qui participons à ce buzz. C'est moi-même qui initie ce débat dans l'émission On fait le match.
On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Mais c'est l'air du temps. Mais Christian, c'est l'air du temps. C'est comme ça.
On est en droit de pas aimer l'air du temps.
Attends, Philippe. Et ce sont ceux qui sont en campagne, Frédéric Thiriez, qui s'en emparent parce que nous sommes en campagne.
Mais moi, j'ai pas besoin que Frédéric Thiriez soit choqué face à un communiqué pour avoir mon propre avis. Et je trouve que c'est un regard journalistique que vous nous proposer en ouvrant à l'émission avec ça. C'est pas, vous n'avez pas une volonté de faire du buzz. Puisqu'en plus, Philippe, il vient de dire qu'il lui, il ne voyait pas où était le problème. Donc toutes les opinions.
Je ne veux pas faire du buzz, je voudrais comprendre.
Et bah oui, c'est ce qu'on essaie de faire avec des opinions contrastées, celle de Philippe et pas de.
Et puis c'est pas du off. Tu dis c'est de la com. Bah c'est pas du off, il l'a déclaré, il sait très bien ce qu'il dit. C'est un homme politique. Un homme politique, quand il veut ne rien dire, il sait ne rien dire.
Voilà. D'autant que sur le fond, moi je trouve qu'il se trompe. Ce genre de phrase, elles peuvent faire. Moi ça m'est égal.
Écoutez, moi je vais te dire, Dominique, je sais pas si je l'accepterais, mais moi j'ai connu une époque avec la regrettée, c'était une amie, Marianne Macot, qui faisait une rubrique dans Téléfoot qui s'intitulait Crampons aiguilles. Eh bien, je suis sûr qu'en 2021, tu ne pourrais pas faire cette rubrique intitulée Crampons aiguilles.
Christian, justement, vous l'avez dit.
Non,
parce qu'on est en 2021.
On ramène les footballeuses à leur état de femme.
C'est stigmatisant, tout ça, mais c'est dans l'air du temps en ce moment. Les débats sont hystérisés autour de cette question-là, et moi je trouve qu'il faut avoir un peu le courage de dire que ça va trop loin et que ça n'est absolument pas sexiste de dire que éventuellement elles sont tirées les cheveux. Alors donc si on avait dit que c'était par exemple pendant Nice-Na quand Roselyne Bachelot parle des caïds immatures.
Immature.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va chercher quelque chose. Caïd, il y a une connotation.
C'était pas bien.
De gros bras.
J'avais pas aimé.
On
n'avait pas aimé parce qu'on y avait trouvé autre chose. C'est-à-dire, c'était par rapport à des soupçons de racisme latent sur le fait que ce soit plutôt des gars issus de banlieue.
Une forme de racisme social.
Bon, voilà.
Un mépris de classe.
D'accord. Ouais. Mais à aucun moment on a dit que c'était finalement une connotation de gros bras, de cours de récréation.
Que ce soit une affaire ou
quel
pas une affaire.
Problème.
Pourquoi il parle comme ça?
Quel est le problème?
Mais il parle comme les gens en fait. C'est vous qui êtes hors
sol. Il parle comme les gens.
Qu'est-ce qu'il y a d'insultant à dire qu'elles sont tirées les cheveux pour dire qu'elles sont foutues sur la
branche? C'est dans l'air du temps. Je suis pas d'accord avec toi, Philippe.
C'est hyper caricatural.
Tu parles des rugbymen qui se mettent des pains dans la. Ok. Je veux dire, tu dis pas. Ce sont des blaireaux qui je veux dire, des gros beaufs qui ne pensent qu'à la bagarre alors qu'on nous présente la valeur du rugby en permanence. Bon, ben voilà.
Non, mais moi, si je le dis, c'est pas un problème. C'est le président de la Fédération française de football.
Mais,
non,
mais attends, je me fais un peu l'avocat du diable.
Et après, qu'ils disent
que Noël Le Graët, c'est pas un diable. En l'occurrence, je trouve qu'on en fait un peu trop. J'ai souhaité qu'on en discute un peu autour de cette table pour savoir, pour connaître d'ailleurs votre point de vue. Je reviens à l'exemple que je citais tout à l'heure de Marianne Maco. Elle ne pourrait plus faire la pauvre cette chronique qui s'intitulait Crampons aiguilles en 2021. Voilà.
Non, au contraire, je crois qu'elle la mettrait bien en valeur parce qu'en plus elle était intelligente.
Je te parle du titre.
Mais non, le titre, il serait pas du tout dévalorisant ou sexiste. Elle pourrait l'expliquer puisque si c'était elle qui l'avait,
oui,
si
une femme,
si elle l'a choisi, elle aurait pu complètement le faire et on aurait trouvé ça magnifique.
Elle a le droit de le faire. Elle a le droit de le faire. Mais alors Wendy Renard n'a pas le droit de dire que finalement Le Graët.
Ah mais elle dit ce qu'elle veut, Wendy Renard. Je trouve juste que c'est un peu décevant de la part des joueuses de laisser passer ça, quand même, parce que on est dans une époque où c'est pas si grave. Ah oui, c'est pas si grave, mais à force de c'est pas si grave, finalement, ça devient
un peu. Non, c'est tout le contraire. On met en exergue absolument tout, et même les choses qui ne méritent pas.
Moi, qui m'a interpellé, c'est que j'aurais bien aimé entendre la ministre des Sports là-dessus, parce que comme elle s'est emparée à juste titre d'autres thématiques qui étaient liées, tu l'as dit, sur l'homophobie dans les stades ou des choses comme ça,
on a atteint des sommets de grotesquerie sur la façon dont ça a occupé le débat public pour savoir si éventuellement il y avait vaguement une insulte qui était partie de la tribune et qu'il fallait évacuer le stade parce qu'il y avait deux mecs qui avaient un peu glissé. Excusez-moi, mais là on est sur des choses, on monopolise l'attention sur des choses qui ne sont absolument pas. Et juste pour conclure, le problème c'est que, parce que moi je voudrais pas passer comme ça pour le défenseur absolu de Noël Le Graët, ça occulte finalement le fond, parce que sur le fond je pense qu'il se trompe sérieusement. C'est-à-dire que il laisse s'installer un climat qui, à mon avis, n'est pas bon au sein de cette équipe de France féminine, en laissant les positions se figer et finalement créer un petit peu le creuset d'une crise qui pourrait devenir à un moment donné ingérable. Je pense qu'il devrait être un petit peu plus pressé de trouver les solutions pour que cette fronde et le fait que Corinne Diack ne parvienne pas à s'en sortir, trouver des solutions de sortie. Mmh. Et lui, il remet à chaque fois le couvercle sur la marmite. Et à un moment donné, ça va les péter à la tronche.
Il a qu'à tirer les cheveux de Corinne Diack.
Allez, c'était une rubrique. On verra si on conserve la rubrique.
Belle chute. Hein.
On demandera aux auditeurs la tchatch qui
on s'est bien crêpé le chignon.
Ah non, alors.
Attention.
Parce que moi, j'ai un chignon des fois.
La tchatch qui décoiffe, on verra.
Ouais, c'est pas mal.
C'est bien.
Une page de pub. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'il est déjà 18h43. Et le prochain sujet va nous tenir quand même au moins jusqu'à 19h. Marquinhos, invité de RTL Foot hier soir. Second entretien mercredi, jour de PSG Barcelone. À l'écoute, vraiment, c'est la force tranquille. Mais vous, êtes-vous rassuré avant le match retour? À tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
18h45, c'est le coup d'envoi de Lyon-Sochaux. On retrouvera à 19h pour le premier quart d'heure, évidemment, Raphaël Vantard. C'est la suite de la Coupe de France. C'est pas la fin. Vous pourrez suivre à partir de 20h Paris Saint-Germain-Brest. À Francis Leblay, donc Brest-Paris-Saint-Germain. Et parmi les surprises de cet après-midi, sachez-le, le Puy National 2 qui élimine Lorient, équipe de Ligue 1, sur le score d'un but à zéro. Mercredi soir, Ligue des Champions, match retour pour le Paris Saint-Germain avec une marge d'avance évidemment impressionnante. Marquinhos, invité de RTL grâce à Philippe Sanfourche, premier volet de l'interview hier soir dans RTL Foot, second volet mercredi matin dans la session matinale d'Yves Calvi avant ce match retour. Il incarne une certaine forme de force tranquille. Il a parlé de tous les thèmes, mais notamment de la Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes rassuré à l'écoute de Captain Marquinhos, Philippe Sanfourche?
C'est difficile de le savoir. On le saura dans les 10 premières minutes de la rencontre pour savoir dans quel état d'esprit ils sont. On a envie de croire quand même que l'expérience finit par durcir un peu le cuir et surtout façonner les tronches. J'ai l'impression que la manière d'aborder la rencontre est moins, on va dire, émotionnelle qu'elle n'a pu l'être par le passé, où on était soit dans la peur, la remontada derrière, on voit les joueurs arrivent sur le terrain au Camp Nou, au bout de 5 minutes, ils sont acculés sur leur but, ils prennent le premier, bon, tu sens le scénario catastrophe qui se dessine d'entrée de jeu.
Cas de figure qui peut se reproduire, hein.
Bah, je sais pas. Et après, il y a eu le cas Manchester United, où là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, tu fais un super match à l'aller, et t'as l'impression que c'est tranquille, tu fais même pas de viso vert, t'arrives les mains dans les poches au match retour. Là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'entre-deux qui paraît plus rassurante.
Moi, je pense que Serac ne croit pas à la remontada barcelonaise.
Moi, je pense que les branches pourries ont été coupées. Je pense que Thiago Silva n'est plus là, le capitaine qui recule et qui défend sur le périphérique parisien, porte de Saint-Cloud. Je pense que Thomas Tuchel, qui est comme Unai Emery, marqué par l'échec de Manchester, n'est plus là. Et Unai Emery aurait dû partir après la remontada, il est resté encore un an de plus. Ces gens-là ne pouvaient plus incarner quoi que ce soit.
Il y a quand même beaucoup de joueurs aussi qui étaient là lors de la remontada, qui sont
là. Le capitaine n'est plus là, et ça c'est une bonne nouvelle. Et donc moi je crois à Navas, je crois à la force tranquille de Marquinhos. Je pense à que Pochettino est très très calme par rapport à cet événement-là. Je dis pas qu'ils vont gagner, je dis pas qu'ils vont faire un grand match, mais ils vont se qualifier.
C'est un mot qui revient très souvent d'ailleurs dans les propos de Marquinhos, la sérénité, la concentration. À l'aune du match aller, c'est d'avoir aussi, dans les jours qui ont suivi, dans les moindres détails, parler de ce qui n'allait pas encore malgré la large victoire. Tu as mis Thiago Silva à la cave. Il en dit du bien d'ailleurs, Thiago Silva.
Non, mais il est arrivé en 2012.
Il
a été en 2012 un très grand défenseur, mais force est de constater qu'en Coupe d'Europe, il n'a jamais fait progresser le Paris Saint-Germain.
Florian Gazan.
Non, moi, j'y crois pas deux secondes à cette remontada pour plein de raisons. D'abord, parce que c'est pas du tout le même contexte. Entre-temps, quand même, Paris est arrivé en finale de Ligue des Champions et ça met un peu d'assurance. Il n'y a plus cette pression de passer absolument 8e. Et puis, entre-temps, le Barça aussi s'en est mangé quelques-unes de remontada. Donc, ça a été éliminé à ce niveau-là. Après, voilà, remontada, voilà, c'était incroyable. C'était à Barcelone, il y avait du monde, il y avait un arbitre qui n'a pas vraiment aidé les Parisiens. Il n'y avait pas Neymar, il était de l'autre côté. Il n'y avait pas Mbappé. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il n'y avait pas qui font que pour moi, ça n'a absolument rien à voir et que agiter ce spectre n'a aucun sens.
Alors, justement, l'association Neymar-Mbappé, ça a agacé un peu Marquinhos à la question. Est-ce que Mbappé ne joue pas mieux d'une certaine façon lorsque Neymar est absent? Et de mémoire, Marquinhos répond au micro de Philippe, arrêtez de dire des bêtises.
Faut arrêter que ces bêtises.
Arrêtez ces bêtises. Ouais. Voilà, je veux dire.
On l'a vu contre
l'équipe,
Monaco,
c'est d'abord un collectif, c'est le collectif qui doit jouer, et ensuite ce sont les superstars qui doivent.
Si les gens étaient contents de voir Mbappé sans Neymar le mercredi, le dimanche, ils se sont dit, ah oui, quand même, quand il n'y a pas un Neymar pour casser des lignes, avec sa passe, pour trouver des espaces dans une défense serrée. Donc voilà, Neymar, évidemment qu'il s'est mieux.
Enfin, en même temps, il ne pourrait pas dire le contraire non plus.
Le PSG mieux que Neymar.
David, mais en même temps, c'était intéressant de le voir sortir là-dessus parce que. Moi, cette interview, je l'ai trouvée intéressante et quelque part paradoxale, parce qu'en fait, on sent que, et je pense que Philippe l'a ressenti, Marquinhos est fondamentalement quelqu'un de sympathique, c'est un bon gars, c'est pas un sale type, quoi. Et en même temps, ça me revient une image, je crois que c'était contre Dortmund, où il traverse tout le terrain, souvenez-vous, pour aller faire pratiquement le coup de poing pour défendre ses partenaires. Là, dans l'interview, pareil, il est quand même parfois un peu trop lisse, je trouve, dans ses réponses, c'est-à-dire qu'il n'ose pas trop se mouiller. Est-ce que le milieu de terrain est déséquilibré? Non, c'est toute l'équipe, voilà. Donc, il est dans ce rôle-là. Et là, quand on vient un petit peu titiller des partenaires en particulier, il monte au créneau. Et en fait, c'est le Marquinhos qui est sur le terrain. J'étais à Bordeaux ce mercredi pour Bordeaux-Paris-Saint-Germain. À un moment, le stade est donc vide. On a entendu hurler un joueur, mais vraiment, je pense qu'à l'autre bout de Bordeaux, ils l'ont entendu. C'était Marquinhos qui hurlait. Et voilà, c'est ce Marquinhos-là, celui qui est sur le terrain, qui se transforme un petit peu, je trouve, par rapport à la personne qu'il est.
À propos de Mbappé, alors je ne sais pas s'il faut avoir une grille de lecture un peu différente, mais à un moment donné, concernant Mbappé, le match aller, tu lui poses la question, Philippe, il répond, le match aller a boosté sa confiance. Alors, il n'a pas été relancé, pardonne-moi Philippe. Hein.
Sur
les 3 mois de creux, mais a reboosté sa confiance. C'était un joueur qui avait perdu sa confiance, mais Marquinhos ne l'a pas dit comme ça.
Oui, alors effectivement, il y a peut-être aussi l'aspect physique, le fait que Mbappé a été longtemps en difficulté à ce niveau-là. C'est un domaine sur lequel effectivement on n'a pas débattu,
mais c'est un leader dans la protection
effectivement de ses cadres. Vous n'aura pas échappé qu'on est aussi dans une période où on parle à la fois pour Neymar et pour Mbappé d'une éventuelle prolongation. Donc il faut faire attention à bien caresser aussi les garçons dans le sens du poil pour faire
c'est un vrai capitaine. C'est un capitaine directeur de sportif adjoint, limite, hein, dans sa façon de s'exprimer. Il est très malin, très fin, très intelligent. Et on sent bien qu'il mesure tous les aspects, tous les paramètres de l'évolution du PSG.
On va tourner une page de publicité à 18h51 et jusqu'à 19h. On continuera de parler des chances du Paris Saint-Germain qui paraissent quand même assez larges de se qualifier pour la suite de la compétition. Je vous poserai la question de savoir si Neymar doit jouer d'ailleurs ce match retour. Est-ce qu'il doit jouer ce match retour? Attention quand même au match qui va se jouer à 21h10 ce soir. Hein,
Et pas avoir un nouveau blessé contre...
Oui, mais alors là, mais il a une réponse également. Il a une réponse, Marquinhos, c'est de dire tous les matchs. Alors est-ce que c'est politique ou pas? J'en sais rien. Tous les matchs, il faut les jouer à fond, sans retenue, etc. Sinon, c'est le meilleur moyen de se blesser.
Il a raison.
La publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
La Coupe de France, ouverture du score à Lyon. Lyon-Sochaux, Lyon, Ligue 1, Sochaux, Ligue 2. Bonsoir Raphaël Vantard.
Et bonsoir. Et le premier but sous les couleurs lyonnaises du défenseur algérien Djamel Benlamri sur un corner. Il coupe au premier poteau la tête et ça fait 1-0 pour Lyon ici au Groupama Stadium contre Sochaux.
Je vous rappelle les surprises de l'après-midi. Le Puy National 2 qui se qualifie aux dépens de Lorient par 1-0. Rumi Vallière National 2 qui se qualifie aux dépens d'Annecy National 1, 1-0. 6 tirs au but à 5 et un peu plus tôt encore dans la journée, le Red Star, club de National qui élimine le Racing Club de Lens Ligue 1 sur le score de 3-2. Mercredi soir, messieurs, est-ce que Neymar doit jouer?
Oui.
Philippe Sanfourche.
Jouer, c'est-à-dire qu'il n'a pas absolument le
Sanfourche.
Alors on va pas être d'accord.
En gros, c'est titulaire. Est-ce qu'il doit être titulaire?
Non, évidemment que non. Mais s'il est en capacité de pouvoir rentrer sur le terrain, il faut absolument le mettre effectivement sur la feuille de match. C'est hyper important pour lui, pour l'ensemble
de, question,
de la rencontre.
C'est doit-il jouer?
Non, mais il ne faut pas le faire jouer absolument. Il n'y a aucune raison de le faire jouer. Ce serait une bêtise, ce serait prendre un risque.
Alors tu le mets dans le groupe et tu ne le fais pas jouer.
Mais le mettre dans le groupe, qu'il soit sur le banc, qu'il puisse éventuellement rentrer.
Oui. C'est de la Ligue des Champions quand même, il faut respecter la compétition. Il n'a pas joué depuis le 10 février à Caen en Coupe de France, 32e de finale. Il voulait qu'il joue un 8e de finale retour de la Ligue des Champions, non mais 30 minutes ou une heure et demie, j'ai pas compris. Si
Dominique, ça dépend justement ce qu'on entend par jouer, parce qu'effectivement tu peux avoir...
Jouer.
Parce qu'il l'a dit lui-même, ça faisait partie des top 3 des matchs qu'il aurait souhaité jouer. Je dis juste, tu peux le mettre effectivement dans le groupe, tu vois en fonction du scénario du match, si c'est trop serré, etc.
Mais David, c'est pas lui rendre service. Quand tu t'es arrêté,
non, mais si le match, s'il y a 2-0 à un quart d'heure de la fin, tu lui donnes un quart d'heure.
10 février, 10 mars, il y a donc un mois. Tu sais qu'il lui faudra 1, 2, 3 semaines avant qu'il retrouve la pleine
vie. Il n'y a pas de règle.
Mais tu peux lui donner un quart d'heure de jeu si tu vas bien.
Il ne va pas retrouver.
Je suis pas d'accord.
Encore une fois, Dominique, si le match est plié, dans ce cas-là, tu peux le faire rentrer.
Non, mais je suis pas d'accord avec toi, Dominique, là-dessus, parce que je me rappelle quand il avait été absent un mois, il rentre directement pour la finale de la Coupe de France face à Rennes. Ça a été le meilleur Parisien direct, et il a fait un match incroyable, même s'ils ont perdu la finale. Donc sur Neymar, je pense que c'est pas le problème. Le problème, je pense que comme apparemment ce soir il jouera pas à Brest, c'est-à-dire qu'il aura pas joué du tout avant d'attaquer Barcelone. J'ai l'impression que Barcelone, quelque part, c'est un match. C'est horrible ce que je veux dire, mais pas si important que ça. Normalement, quand même, ils doivent se qualifier. Et après, il y a quand même une compétition qui va continuer. Il y a un championnat qui est hyper serré. Il y a la Ligue des Champions. Tu peux pas prendre le risque de blesser Neymar.
C'est quand même un problème.
Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais plus jouer.
Mais non, mais il faut le gérer.
Mettez surtout pas dans la naphtaline, comme disent beaucoup. Parce que au contraire, mettez-le dans la ouate surtout. Ouais. Parce que dans le. Comment on appelle ça? Dans le
formol.
Ça veut dire que
c'est
terminé.
C'est vrai.
Mais c'est quand même un problème de se poser la question, finalement. Parce que, on est comptable des matchs que doit jouer Neymar par rapport aux échéances, par rapport aux objectifs, etc.
Mais j'espère, ça pose un problème. Il y a un sprint final, il y a PSG Nantes le dimanche suivant. Ça c'est très la Liga est aussi importante cette saison. Il faut bien, il repart contre les Canaries, c'est parfait. Comparer la Coupe de France et un match de Ligue des Champions, Florian, c'est quand même pas pareil. On parle de la Ligue des Champions.
Enfin, ça va dépendre du scénario. Pression quand même. Hein. Ça va dépendre du scénario. Hein.
Mais quel scénario?
Mais si, parce que s'il y a 2-0 à la 70e, tu peux le faire rentrer pour Paris. Je veux dire, il n'y aura plus de suspense. Barcelone va arrêter de jouer. Tu peux le faire rentrer à ce moment-là.
C'est pas un Barça, c'est devenu Dijon. Il joue à 5 derrière.
Bah, si, alors, justement, Barça, un mot sur Barcelone. Eux, ils ont eu le droit à leur remontada également contre Séville cette semaine. Alors, Griezmann. Alors lui, pour le coup, ne va pas jouer.
Je crois
en tout cas, il ne va pas être titularisé.
Il est passé à un 3-5-2, l'ami Griezmann. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus Griezmann. Mais je crois que même la vraie raison pourquoi il n'y aura pas de remontada, c'est que Barcelone n'y croit pas du tout. Barcelone a complètement fait une croix sur ce match. Depuis le match aller, Coman a dit bon bah voilà, ils sont plus forts.
Il l'a redit, moi j'ai pas compris son message là. Il l'a redit il y a 3 jours en disant bon justement après cette remontada face
attention,
à Séville,
hein, le Néerlandais est malin. Hein.
Oui mais là j'ai pas compris le fait
oui,
que
mais
juste après cette remontada là ils disent bah enfin, remonter 4 buts à Paris ça sera pas la même.
Ouais, non mais même Clément Lenglet vous l'entendez après le match contre Séville, il fait preuve de beaucoup d'humilité. Et surtout, ce que souhaitent les Barcelonais, c'est montrer un visage digne de ce que représente ce club et de la compétition qu'est la Ligue des Champions. Donc je pense qu'effectivement, ils ne vont pas venir à Paris pour prendre la même volée qu'à l'aller, mais
ils ne peuvent pas décemment par rapport à ce qu'ils ont montré, non pas que sur ce match, mais depuis 6 mois et voire même plus en Ligue des Champions, ils ne peuvent pas clamer haut et fort le fait qu'ils viennent pour se qualifier à Paris.
Bon, donc à vous entendre, le match est plié.
Pour moi, il y a quand même une interrogation, c'est si Barcelone ouvre le score, on va dire, dans le premier quart d'heure.
Bah, c'était la question tout à l'heure, vous m'avez renvoyé dans mes 22. Si au bout d'un quart d'heure, Barcelone ouvre le score,
je demande à voir la réaction parisienne.
Il y a des gens qui vont trembler.
Je demande.
On peut partir, oui, on peut aussi dire, si Paris prend un carton rouge au bout de 2 minutes.
Non, mais c'est ça. Navas peut faire une mauvaise sortie.
Un but de Barcelone contre Paris, c'est pas non plus délirant.
Neymar dans le groupe, et on gère Neymar pour vous tous au fur et à mesure selon le résultat. Sauf pour Dominique Sévrac, où il faut le titulariser dès le départ, Dominique, si j'ai bien compris.
Contre Nantes.
Hein,
contre Nantes. Suivant.
D'accord. qu'est-ce qu'on fait? 18h58. Je vous signale que Lyon a marqué un deuxième but. On va y revenir dans le flash de 19h, évidemment, avec Hortense Crépin. C'est l'heure de la publicité. On a parlé de Noël Le Graët. On a parlé du Paris Saint-Germain. Oui, c'est cela. Je voulais également vous rappeler que mercredi soir, sera une soirée quand même spéciale sur l'antenne de RTL, évidemment.
Quand même.
De 20h, j'ai plus les horaires en tête, Philippe, aide-moi, à partir de
20h45.
20h45 jusqu'à 23h ou davantage.
S'il y a 4 abos à Barcelone.
Et ce sera mercredi soir. La publicité, les informations de 19h, la suite de la Coupe de France et puis le troisième débat qui concerne. Et Marseille et ses ultras, mais également le risque de contagion dans d'autres clubs. La question est posée de la façon suivante. À Marseille, les ultras ont pris le pouvoir. Craignez-vous la contagion dans d'autres clubs? À tout de suite.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h, puis de 20h à 23h, la Coupe de France avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin, Raymond Abou également. L'intégralité, mais pas seulement, l'intégralité de Brest-Paris-Saint-Germain, 16e de finale de Coupe de France. Réaction également de tous les autres matchs joués cet après-midi avec des surprises, vous le savez. Le Red Star s'est qualifié, Rumi s'est qualifié, l'équipe du Puy s'est qualifiée également. Voilà pour les surprises hiérarchiques. Et après maintenant 19 minutes de jeu, Lyon mène face à Sochaux sur le score de 2-0. Antenne ouverte également pour Raphaël Vantard s'il se passe quelque chose à Lyon. Messieurs, Marseille, la question, je vous la pose, brute de décoffrage. À Marseille, les ultras ont-ils pris le pouvoir? Craignez-vous que la contagion s'exprime dans d'autres clubs? Pourquoi ont-ils pris le pouvoir? Car je trouve que d'une certaine façon, les commentaires ont été quand même assez modérés. C'est-à-dire que, d'accord, il y a le coronavirus, d'accord, les supporters sont frustrés, d'accord, les supporters ont une dent contre Jacques-Henri Hérault, mais là, pour le coup, ce sont les de mon point de vue, en tout cas, je vous pose la question, j'ai l'impression que les supporters là font à Marseille, sur cette séquence, car c'est pas la première fois, la pluie. Mais
justement, Christian, vous dites, est-ce qu'ils font désormais la loi? Il se trouve qu'à Marseille, ils la font depuis longtemps, en gros, que Bernard Tapie a monnayé avec eux une paix sociale, une paix des tribunes, en tout cas, en leur laissant la gestion des abonnements des virages.
Ce qui n'est plus le cas maintenant. Hein.
Ce qui n'est plus le cas, en tout cas, c'est un petit peu plus complexe.
Vincent Labrune y a mis fin, et ensuite, il y a effectivement un pourcentage sur les abonnements, mais qui sont vendus par le club, avec un pourcentage qui revient également aux associations de clubs.
Une cotisation. Bon, donc du coup, en fait, de fait, à Marseille, voilà, le poids des supporters, on le sait, il est énorme. C'est vrai qu'avec la crispation qu'il y a eu avec la direction, ça a pris des dimensions encore plus importantes. Moi, ce que je retiens quand même de cette séquence, c'est que c'est un point de crispation qui vient s'inscrire dans un climat global où on voit bien qu'entre les supporters, et en plus il faut faire attention parce que on dit souvent les supporters, c'est pas pareil, c'est pas la même chose de parler des ultras, et souvent on mélange les ultras et les supporters.
Les ultras sont aussi des supporters.
Oui, mais tous les supporters sont pas ultras.
Oui, puis tous les ultras sont pas forcément dans les mêmes mouvances. À Marseille, tous les ultras font pas forcément super bloc. Parfois, ça se tire un peu la bourre entre différents groupes, donc il faut être un peu affiné, quoi.
Donc du coup, c'est vrai qu'on a tendance à en faire un amalgame. Et là où je voulais en venir, c'est que pour moi, la question de fond de tout ce problème, c'est le problème de dialogue un petit peu entre les instances, entre la direction. Et comme moi, quand je dis dialogue, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément donner carte blanche justement aux supporters et leur donner le pouvoir. Mais c'est que pour moi, il n'y a pas de juste milieu aujourd'hui. On est dans quelque chose où soit il y a de la répression et puis voilà, on arrive à ce qui s'est passé à Marseille, soit on ne les écoute pas. Et moi, j'aimerais qu'on aille vers quelque chose d'un petit peu plus mature, un petit peu plus équilibré, mais ça passe aussi par une prise de conscience de la part des supporters qui parfois aussi, pour certains en tout cas, ont la sensation d'avoir un droit de regard, à mon sens, trop important au sein des clubs, sur la vie du club.
On va parler, messieurs, hein, de l'éventuelle contagion, car cette révolte des supporters, cette colère des supporters, c'est aussi parce que leur équipe préférée n'obtient pas actuellement les résultats sportifs. Mais à Marseille, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur Marseille. Non, c'est pas si simple, mais c'est quand même...
Ça joue aussi quand même. C'est souvent l'étincelle.
Souvent, c'est le point de départ.
Non, mais je voudrais qu'on vienne sur Marseille. Oui. Marseille, parce que sur la base des images qui nous ont été proposées par la chaîne L'Équipe, avec l'enquête également, c'est impressionnant. Ce sont des images de vidéosurveillance qui ont été reconstituées et qui, sur une durée de 12 à 15 minutes, je crois, ont feuilletonné l'ensemble des incidents. On nous a expliqué, dans un premier temps, que c'était absolument pas préparé. On nous a pris pour des imbéciles. Toutes les associations étaient représentées. Les supporters venaient parfois de très loin.
Je ne sais pas, il faut faire attention, Christian, quand tu dis toutes.
Certaines
sont identifiées, en tout cas.
Bon, les voitures de ces supporters ultra, appelle-les comme tu veux, David, étaient garées à 500 mètres de la commanderie. Ils se sont projetés vers la commanderie en convoi. Tout était quand même préparé sur les réseaux sociaux. Les images sont impressionnantes. Quand on nous dit que ça n'a pas été préparé, c'est... Il n'est pas possible de le croire. Donc on peut aussi appeler ça une forme de putsch quand même, je veux dire.
Mais M. Macourt, il a depuis 4 ans et demi, Christian. On parle de cet épisode-là, on ne les a pas entendus pendant 4 ans et demi. On a laissé M. Hérault et M. Macourt travailler. Il a fait ce qu'il voulait, M. Hérault. Il a choisi Rudy Garcia.
Ça fait des mois qu'il y a un climat de défiance, qu'il y a des mois dans la ville, etc.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que M. Hérault n'a pas été empêché de travailler au début. Il a choisi Rudy Garcia, il a choisi les joueurs qu'il voulait, il a choisi Payet, il a eu des fonds, il les a mal dépensés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la révolte intervient au bout de 4 ans et demi du mandat de M. Macourt, qui est un mandat raté.
T'es en train de justifier là ? Je comprends pas.
Non, pas du tout.
Je sais pas.
Pas du tout. J'explique que les supporters, on les a pas entendus. Pendant plusieurs mois, ils n'ont rien dit. Et quand il n'y avait pas le coronavirus, ils allaient au stade.
Ils n'ont rien dit parce qu'ils sont allés en finale de Ligue Europa aussi, qu'ils sont qualifiés pour la Ligue.
C'était pas déjà grandiose, quoi.
Donc
aujourd'hui, on arrive au fait que les supporters, ils ont mis un coup d'arrêt à M. Hérault, et ça, c'est salutaire. Pas les violences. Pas le fait qu'ils aillent s'introduire dans un centre d'entraînement privé pour casser des choses, ça évidemment c'est pas possible, mais mettre fin à la gestion de M. Hérault qui était méprisant, qui avait une condescendance vis-à-vis des Marseillais, soit des Marseillais des hommes marseillais, comme du peuple marseillais, des supporters marseillais, mettre fin à tout ça, mettre un stop, alerter M. Macourt pour que tout ça cesse.
C'est plus qu'alerter, Dominique, c'est plus qu'alerter, c'est vraiment une prise de pouvoir des supporters il faut reprendre les choses dans l'ordre quand même. Tu manifestes, tu te projettes sur la commanderie, tu casses ce que tu peux casser, tu balances des projectiles et des fumigènes.
Casser, c'est pas
bien.
Dans les
jours qui suivent, tu fais partir Aldebert. C'est le microcosme marseillais, mais c'est très très important. Aldebert, ça dit pas forcément grand chose à la France entière, mais c'est quand même celui qui était le responsable du stade Vélodrome, qui a aussi été responsable de la sécurité.
Oui, qui était un proche des.
J'ai passé des coups de fil. Il y en a un qui va. Alors, personne ne le connaît, mais les supporters le connaissent. C'est Alexandre Netton, c'est celui qui s'occupe de la sécurité à Marseille. Ça va être le deuxième à partir. Ensuite, il n'est pas exclu que Hugo Ouvrard, qui est le chef du business, quitte également l'Olympique de Marseille. Au fur et à mesure, là, je veux dire, c'est quand même la pression de ses supporters.
Complètement.
Je préférerais qu'on s'intéresse à
M. Macourt.
Qui désintègre l'organisation.
Comment il dirige le club, comment il le possède, est-ce qu'il vit à Boston
ce qui s'est passé, c'est quand même intéressant à décrypter. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu mets ça de côté. Ce qui s'est passé là, la commanderie.
Mais ça, on en a déjà parlé mille fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? On va pas dire bravo d'être rentré, bravo d'avoir cassé, qui va dire ça ?
Non, parce qu'il ne s'agit pas effectivement d'appeler à la révolte et à la violence. Mais après, il y a un fait, il y a des faits, il y a un constat. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cet excès de violence, est-ce qu'aujourd'hui, le club aurait subi toutes les transformations qu'il a subies depuis maintenant 15 jours ? C'est ça la vraie question. Et quand on parle de contagion, c'est-à-dire... c'est quoi la question d'après ? C'est en gros, les Marseillais ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, en faisant le coup de force.
Et on va y venir pour les autres clubs.
À Nantes, par exemple, ça fait des mois qu'il y a une situation latente. À Bordeaux, c'est pareil. Ils n'obtiennent rien. Donc, en gros, la question sous-jacente, je sens dans l'intitulé de la question de Christian, c'est de dire, est-ce qu'il faut en passer par la violence pour faire évoluer les choses ? Il ne faut pas avoir peur de prononcer les mots, tu as raison,
mais c'est pour ça que je disais
aussi... Il ne s'agit pas de légitimer, il s'agit de poser la question.
Que ce sentiment-là, excuse-moi, je suis Florian, sur ce point-là, je pense que ce sentiment effectivement de frustration, bon, il vient effectivement de ce qui se passe au niveau sportif et des crises qui accentuent ce sentiment, mais aussi, je pense, beaucoup du fait que les supporters ont le sentiment d'être pris pour des vaches à lait. On leur demande de venir au stade, d'applaudir, de se contenter de payer leur place et de pas être assez entendu. Et je pense qu'il y a un juste milieu, encore une fois, à trouver là-dessus.
Non, mais ça sans doute, mais moi je pense sur l'histoire de Marseille, c'est juste que McCourt, il a été plus malin que les autres présidents. C'est-à-dire qu'en faut, en gros, il a dit allez, je vous lâche Hérault, je vous lâche machin, je vous laisse ce que vous voulez. Il va les calmer. On sait très bien que s'il veut que Hérault continue à bosser pour l'OM, il bossera pour l'OM, hein, il bossera dans l'ombre, mais il le fera et c'est sans doute ce qui va se passer. Ah. Bien sûr que si, McCourt, il a compris de toute façon que là, il est pas idiot. Faut pas croire que c'est un gars qui déboule tous les deux ans de Boston. Il a compris que de toute façon, il fallait contourner le problème des supporters, parce qu'on sait de toute façon qu'à Marseille c'est toujours comme ça. On a eu des Labrune démissions, tout le monde a eu des démissions, on a eu des Paf Diouf démissions, tout le monde a eu des démissions à partir du moment où les résultats n'étaient pas là, à partir du moment où on avait l'impression que les recrutements n'étaient pas bons. En plus, on sait très bien que les supporters marseillais vivent quand même très mal le fait que depuis 11 ans leur rival absolu, bah évidemment, leur met des trempes parce qu'ils ont des moyens. Bon. Donc tout ça fait que
ce qu'on ne dit pas ce soir, je trouve, c'est ce que essaye de dire Nicolas Orcade, le sociologue du sport, c'est que ces gens-là se sentent méprisés, que les actionnaires se succèdent à la tête de l'OM avec une forme de mépris, de classe pour ces gentils supporters qui seraient des beaufs, qui viendraient juste dépenser de l'argent et boire leur petite bière en cachette dans le stade. C'est ça que ces supporters ne supportent plus.
Mais c'est
plus.
Pas vrai, Dominique.
Vous ne voulez pas voir que la colère, qui se traduit de mauvaise manière, elle est peut-être justifiée par un comportement de mépris.
Tu poses peut-être les bonnes questions.
Mais ça, c'est ce que j'ai dit, Dominique.
Dominique pose peut-être les bonnes questions. Néanmoins, il se trouve que
mettez-vous à la place des supporters.
Il se trouve que néanmoins, l'organigramme de l'Olympique de Marseille est totalement désintégré de par la pression des supporters, que d'autres vont bientôt prendre la porte, que la fameuse ou les fameuses conventions qui régissaient les accords entre supporters et clubs, ben finalement Franck McCourt, pour avoir la paix sociale, dit ok, pas de souci, vous ne serez pas,
il n'y aura
pas de solution, on continuera de fonctionner comme cela. Le projet Agora OM est maintenant au troisième sous-sol. Et tu as des contacts quand même qui dire le porte-parole des supporters, c'est Rachid Zeroual. Tu peux te poser des questions. Il a tout donné.
Bien sûr.
Il a tout donné au sein de son assoce des supporters qui étaient les winners de mémoire. Il a tout donné. Mais enfin, ce monsieur a aussi été à un moment donné condamné pour s'être battu avec d'autres supporters marseillais ou contre d'autres
supporters marseillais.
Il a été interdit de stade. Enfin, je veux dire, tu vois ça autre part qu'à Marseille.
Mais non, mais à Bordeaux. Alain Giresse, il a été nommé par le maire pour une mission de rapprochement, de conciliation entre les supporters. On sait qu'entre l'actionnaire américain qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas identifier, on sait que Longuepé est président de Bordeaux, mais on ne voit pas quel est cet actionnaire. Mais on sait qu'il y a des problèmes à Bordeaux avec les supporters. Et bien Alain Giresse, figure historique du club, voilà, lui, il est là pour essayer de réconcilier les morceaux.
Il ne devait pas faire ça. Basile Boli, à l'OL, il n'était pas censé faire ça d'ailleurs.
Mais oui, mais tous les anciens joueurs ont été d'abord écoutés, et ensuite ils attendent toujours que leur téléphone sonne.
Messieurs, la contagion, on va en parler. Justement, la contagion à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Nice, à Nantes, etc. etc. Et vos messages également, allez-y, hein, sur le compte @RTLFoot, compte Twitter, après la publicité, tous vos messages relayés par Baptiste Durieux. On a un œil évidemment sur les matchs en cours de Coupe de France. Il n'y en a qu'un pour l'instant. Lyon, Ligue 1, mène face à Sochaux, Ligue 2, sur le score de 2-0, après maintenant 30 minutes de jeu. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
19h18, la suite d'On refait le match. À Marseille, les ultras ont pris le pouvoir. Craignez-vous la contagion dans d'autres clubs? On va parler dans un instant de Bordeaux, de Nantes, de Saint-Etienne, de Nîmes, de Nice. Tiens, de Nîmes, Florian Gazan, c'est chaud également. De certains clubs de Ligue 2 également. Valenciennes de mémoire, c'est chaud à Valenciennes. Il y a une incompréhension totale entre les supporters et la direction. Et ça commence à être chaud également à Nancy. Les messages sur le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Et justement, sur l'assaut des supporters marseillais, message de Damien, je vais ne pas faire une marque courte en comparant la Commanderie au Capitole ou en prise de la Bastille, mais une seule conclusion, on ne peut rien faire contre une révolte populaire, absolument rien, aussi condamnable soit-il, cet assaut a tout changé. Et message d'Axel, le président de l'OM c'est qui? C'est les supporters, plus que Nantes ou Saint-Etienne. Si les Marseillais se révoltent, le club est en danger et change en conséquence. Des vaches à lait exploitées par la communication de Marseille, oui, mais surtout des taureaux dans une arène quand ça va trop loin, et ils gagnent toujours, les supporters, contrairement à leur équipe.
Vous continuez de nous rejoindre sur le compte @RTLFoot.
Juste une précision, on peut rien faire. Par exemple, les gens du Capitole, il y en a certains qui sont en prison pour terrorisme intérieur, ils vont y rester assez longtemps. Donc on peut. Les révoltes finissent pas toujours bien.
Alors il y a ailleurs que sur les réseaux sociaux. Ailleurs que sur les réseaux sociaux, ça réagit également. Il pose les bonnes questions, Sérac, me dit un interlocuteur. Un autre me dit mais Philippe Sansfourche est complètement fou, ce sont des ultras, où sont les supporters, ce sont des minorités actives. Encore un troisième me dit
ça peut être là,
non. Alors là pour le coup non. Ce n'est pas celui que vous pensez.
Moi, je pensais à Donald Trump.
Non. Un autre me dit la prise de la commanderie, c'est le 14 juillet des ultras, etc., etc. Bon, risque de contagion ou pas ?
Mais il faut que les mairies s'en mêlent. On a parlé de Bordeaux là. Monsieur Payan, j'imagine que pour l'image de sa ville, c'est pas une bonne nouvelle de voir quelques nervis s'introduire. Et
d'ailleurs, il s'est mêlé au débat.
Eh ben, je pense que ça concerne le foot, ça concerne la cité.
Bon, enfin, le maire de Marseille qui te dit ouais, Macourt m'a dit que
gagner des champions,
la coupe aux grandes oreilles.
C'est mieux s'ils font pas de la communication et s'ils prennent les choses au sérieux, quoi. Moi, j'espère qu'à Bordeaux, à Nantes et à Marseille, qui sont à mon avis les trois places où c'est un peu le plus chaud, j'espère que les édiles vont prendre le dossier à bras le corps. Je sais qu'à Bordeaux, c'est bien fait avec Alain Giresse. Je connais pas la situation nantaise.
C'est pas le maire de Bordeaux, hein, Giresse.
Non, mais c'est lui.
C'est un maire écolo qui se fout totalement du football.
Ben non, il est intervenu dans le débat.
C'est lui qui a donné la mission. Non, il a changé d'avis.
Il a changé d'avis. Il aime le football.
S'il a changé d'avis, c'est un vrai politique.
Il a vu ce que les supporters étaient capables de faire, donc il est revenu sur ses premières déclarations un peu hâtives. Donc maintenant, voilà, il a confié, encore une fois, un personnage incontestable du football français, Alain Giresse, une mission de conciliation entre les Girondins.
Qui est une mission pas facile en même temps. Pour un ancien joueur, c'est quand même pas évident de se retrouver entre la direction et les supporters. Après, moi, là où je pense que c'est effectivement très important, je reviens sur l'idée de dialogue entre les supporters et les clubs, c'est qu'en plus, il y a le contexte actuel qui a à prendre en compte la situation sanitaire. Les supporters ne vont plus au stade. Il y a une forme de frustration énorme pour eux, puisque habituellement, il y a les banderoles dans les stades, il y a les chants, il y a tout ce qu'on veut. Là, il n'y a plus ça. Donc, je pense que la nécessité d'instaurer ce dialogue, elle est encore plus importante dans le climat actuel.
Mais ça, moi, je trouve que c'est la limite du truc. On en parlait, Dominique faisait référence à Nicolas Ourcade et à l'ensemble de son travail, qui ne date pas d'hier, d'ailleurs, sur les supporters.
Et il connaît bien le sujet.
Et il connaît bien le sujet, et je trouve que la photographie, elle est parfaite. Après, quand on va plus loin sur comment, justement, instaurer ce dialogue, on part dans des histoires de conventions avec des droits, des devoirs, des imbrications. Moi, je ne suis pas persuadé. Par essence, les supporters, c'est un mouvement qui est un petit peu en marge, qui se veut aussi un peu indépendant.
Lui, il compare les syndicats. Hein. Il dit dans le foot, ça serait les syndicats.
Eh ben moi, j'y crois pas, ça. Ça fait des années qu'on essaye de mettre en place le fait qu'il y ait les référents supporters. Ça avance pas. Parce qu'en fait, les supporters, ils n'ont pas envie d'être affiliés, d'être encartés, d'avoir un côté. On est groupé avec les syndiqués, on fait partie
de la club. Tu veux leur réserver quelle place?
En fait, on s'aperçoit que ça dépasse les bornes quand il y a un problème d'identification et d'ADN. Quand les supporters ne se sentent plus représentés correctement par les actionnaires, par les présidents de club. Enfin, on parle de Saint-Etienne, par exemple. Je pense que les supporters de Saint-Etienne ont plein de choses à reprocher à messieurs Romeyer et Cayazo. Mais pas de pas aimer leur club. Pas de représenter leur club, d'aimer Saint-Etienne, d'aimer la SSE. Bah,
ça ne les empêche pas d'aller à l'Etra jeudi matin avec une banderole, maintien ou pas, dégagé, Romeyer et Cayazo.
Très bien, mais est-ce que la ville
sans
suit
violence pour l'instant.
Parce qu'on s'aperçoit que, en fait, ce qui fait des clics, c'est quand la ville, même les gens qui ne s'intéressent pas tous les jours au foot, commencent à être en accord avec le mouvement de fronde. Parce qu'à Marseille, vous avez beau dire ce que vous voulez, ce qui s'est passé à la commanderie, vous avez les trois quarts des gens dans la ville qui disent ils ont cassé le trois trucs, c'était pas bien, mais finalement c'est quand même ça qu'il fallait faire.
C'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que dans ces violences là et après enquête, et d'ailleurs il va y avoir un procès il y a quand même pas mal de supporters d'associations, il y en a une demi-douzaine à Marseille qui étaient à la commanderie ce jour-là, on veut nous faire croire que c'est quelqu'un qui est venu en blablacar
mais ça a été quasiment
qui montait avec ses
autorités politiques
et un troisième qui avait un fumigène dans la poche parce que c'était pour le mariage de son copain 2 heures après.
Mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être manichéen et essayer de désigner les bons et gentils là-dedans. Je pense moi aussi que les supporters et notamment les associations de supporters doivent un moment aussi se regarder en face et avoir un discours clair et arrêter en même temps de dire bon, on sait pas bien ce qui s'est passé à la commanderie, mais en même temps on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de membres des associations. et de manière plus générale, d'avoir des supporters qui condamnent les violences, mais en même temps qui participent.
Bon, quelles sont vos solutions?
On peut pas tout faire.
Quelles sont vos solutions, messieurs? Vous me parlez de la mairie, mais la mairie, qu'est-ce qu'elle peut faire?
La justice et la police, elles sont là pour faire des enquêtes. Nous, moi, je pense qu'il faut essayer de les comprendre, les supporters. Il faut essayer de savoir. C'est pas des gens qui, un matin, décident, même si vous me dites que l'attaque de la commanderie est très préparée, c'est pas des gens qui, un matin, se réveillent et disent, tiens, je vais tout casser. Comment cette colère, elle arrive? Comment elle surgit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le foot, qui est une activité sympa, ludique, festive.
Bon, au départ, c'est les résultats sportifs.
Ça part toujours de là quand même, Dominique.
Je pense qu'il y a un mépris.
Si Marseille était leader du championnat avec 10 points d'avance, je pense que ça se serait beaucoup mieux passé.
Les résultats sportifs, ça calme bien. Mais quand on a une forme de condescendance, de mépris et de rejet des supporters,
c'est clair.
Si vous êtes premier ou dernier, ça change.
L'OM pourrait être leader quand Jacques-Henri Hérault explique qu'il y a trop de Marseillais, que tu peux pas diriger le club avec des Marseillais à l'intérieur parce que du coup t'es moins efficace et que tu crées tous les jours des fans expériences, des trucs qui ont rien à voir avec l'identité des vrais supporters et de ceux qui sont affiliés au club.
Mais tu reviens, Philippe, vous revenez à l'analyse la plus facile. Voilà, Hérault,
c'est parce qu'il a mis
à Sciences Po le mépris de classe.
C'est pas nous qui l'avons viré.
D'autres exemples, vous m'avez parlé de Saint-Etienne. Il n'y a pas plus Stéphanois, ou en tout cas qui aime son club, que Romeillet et Cayazo. Alors qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne et quelles sont les solutions? À Nîmes, bon, alors c'est un président.
Pareil.
Oui, bon,
qui
n'est
pas vraiment totalement du cru et voilà, numéro 2.
Et à Saint-Etienne, voilà, je veux dire, chaque club.
Moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui est propre à l'identité française, à la culture française des supporters, c'est que. Vous avez plein de pays, notamment je pense aux pays anglo-saxons, britanniques, où les supporters sont derrière leur équipe quoi qu'il arrive.
Oui, mais enfin, bon, ils ont mis leurs ultras dehors depuis des années.
Oui, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, les supporters, ça arrive, vous pouvez prendre le Celtic, enfin plein de clubs.
Est-ce qu'on peut être ultra et supporter d'ailleurs?
Ils sont derrière leur club quoi qu'il arrive. En France, on a quand même cette culture de, à un moment, les joueurs, quand il y a une série de mauvais résultats, c'est parce qu'ils sont pas bons, c'est parce qu'ils se bougent pas assez, ils ne mouchent pas le maillot, etc. Et ça. Il y a cette idée quand même que systématiquement les mauvais résultats c'est parce que on fait mal son travail. Moi je pense qu'il y a quelque chose à travailler aussi là-dessus. Je vous le dis, il y a plein de pays où c'est pas comme ça.
Donc la culture, notre culture de notre rapport au sport serait pas aussi pur ou
je trouve,
intéressant.
Ce qui est pas,
À Lens, il y a des supporters géniaux.
Je pense qu'à Saint-Etienne, il y a des supporters géniaux.
D'accord, Dominique. Enfin, je te rappelle quand même qu'il y a deux saisons à Lens, les résultats n'étaient pas là. Et c'était chaud, hein, Bollard. Hein.
Oui, mais ça arrive toujours, ça.
Et il y a eu des envahissements.
Ça arrive en France.
Je vais te dire, pour ne pas me fâcher avec les supporters lensois, parce qu'en plus, je les adore, je trouve l'ambiance absolument extraordinaire. Et que l'expression...
Réduction du score à Lyon.
Ah, Raphaël Venteur.
Exactement, signé. Chris Bedia qui vient d'entrer en jeu et qui a remplacé Steve Embry qui est sorti sur blessure et sur un bon ballon en profondeur d'Ourega, l'attaquant socialien qui réduit le score et qui relance donc complètement ce match puisque Lyon ne mène plus que 2 buts. Plus un ici pour ce 16e de finale de Coupe de France.
Il reste grosso modo 5 minutes avant la mi-temps.
Merci, Raphaël.
Ouais, donc à Lens, formidable public. Enfin, ça a été chaud il y a 2 ans parce que les résultats n'étaient pas là. Je crois quand même que la pierre angulaire de cette histoire, c'est quand même les résultats. Au-delà du fait que Hérault soit ou parisien ou ait un mépris de classe vis-à-vis des supporters, etc. Ouais. D'abord les résultats.
Il y a les résultats. Et il y a aussi, c'est un peu tarte à la crème, mais le fameux projet. Parce que. En fonction de, quand même, de qui dirige le club ou qui achète un club, on voit bien que la destinée n'est pas forcément toujours sportive. Et ça, je pense que les supporters le vivent assez mal, de dire que quelque part, on vient leur prendre leur club, entre guillemets, pour faire autre chose que des résultats sportifs. Les supporters, ils vivent de quoi? Ils vivent de titres, de coupes, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas vendre des joueurs pour gagner de l'argent ou des fonds de pension. Eux, ils veulent des résultats sportifs. Donc quand ils sentent que le club est pris en main par des gens pour qui le sportif passe en second, et c'est, on peut dire, le cas à Marseille avec Romain Courte, à Bordeaux c'est le cas pareil, Kita, bon c'est différent, et je pense que ça aussi c'est un problème, et c'est aussi
ouais,
là où il y a...
Encore une fois, à Marseille, tu vas à Marseille le jour de la finale de la Ligue Europa, c'est le feu, et Jacques-Henri Hérault, il n'y a aucun problème avec lui. Hein.
Vous me ramenez tout à Marseille, j'essaie de vous poser la question de savoir s'il y a une contagion possible à Bordeaux, à Nantes, à Saint-Etienne, à Nîmes, à Nice, à Valence, à la Nancy. J'attire votre attention qu'une note interne des forces de sécurité des forces de l'ordre circulent et ils tirent le signal d'alarme. Il y a des regroupements de plus en plus nombreux, ou aux abords des bus quand les joueurs se déplacent pour aller faire leur match, ou aux abords des stades pour tenter de compenser effectivement le manque de présence dans les stades, et que parfois c'est un peu chaud, ce n'est pas forcément festif. Et je rappelle que 6 personnes à la 7e, c'est la loi l'interdit. Hein. Ouais. Et des regroupements de 6 personnes.
C'est une recommandation.
En même temps, il y en a eu beaucoup des rassemblements de supporters.
Moi, j'ai vu le PSG.
Sinon, il faut déposer. proposer
quelque chose. J'ai vu le PSG être encouragé au Bourget par des supporters venus leur dire au revoir avant qu'ils aillent à Barcelone. Mmh. Ils étaient plus de 6, hein, je crois. Mmh. Ils étaient pas loin de 1000.
C'était pour faire un mot, Dominique.
Je crois pas qu'ils aient été arrêtés.
C'était pour faire un mot, Dominique. La Ligue 1 est concernée, Valenciennes, Nancy, je le disais.
Non, mais après, ce qui est clair, c'est qu'à Marseille, il y a eu un précédent, il y a eu une jurisprudence. Et ça, malheureusement, ça peut donner de mauvaises idées à d'autres supporters.
19h29, la publicité, la dernière demi-heure d'On fait le match. On a parlé de Noël Le Graët pour tous ceux qui nous rejoindraient. On a parlé de Paris Saint-Germain, Barcelone, de Marquinhos. On a parlé donc de Marseille, on a parlé de Bordeaux, Nantes, Saint-Étienne, Nice, Valenciennes, Nancy. Et on va parler de Rennes après la publicité. Le gang des Lyonnais, est-ce que c'est la bonne solution pour le Stade Rennais? À tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match avec une soirée spéciale Coupe de France et le débat continue pendant la pub. Ah oui. Je le dis un jour, je vais vous enregistrer, les débats pendant la pub sont souvent meilleurs qu'à l'antenne. Je le regrette, mais...
On les mettra sur les réseaux sociaux.
Je vais demander à Boris, on va essayer d'enregistrer tout ça.
Mettez une heure de pub et pendant ce temps-là, on débat, nous.
Non, mais... On mettra pas tout, quand même.
Non, on mettra peut-être pas tout, pour rester raisonnable, mais une espèce de bonus, ce serait une grande première.
Ah, c'est pas mal. Un
bonus d'On fait le match,
ouais,
tout ce qui
mais la question, c'est, est-ce que si on sait qu'on est enregistré, est-ce qu'on sera aussi bon?
Est-ce qu'on pourra se réécouter? Parce qu'il est possible que parfois des mots nous échappent. Vous savez, Christian, hors antenne. J'essaye de faire à peu près attention à ce que je dis.
Non, il n'y a pas de souci particulier du point de vue du vocabulaire. Dans l'ensemble. Bon, enfin, bon. Que fait-on? Coupe de France, mi-temps, Raphaël.
Alors c'est pas encore la mi-temps, il y a eu un but lyonnais avec le troisième but il y a quelques instants, signé Ryan Cherki. Les Lyonnais piqué au vif après la réduction du score sochalienne et à l'issue d'un magnifique mouvement collectif, c'est donc le jeune Ryan Cherki qui inscrit son deuxième but de la saison et qui permet donc à Lyon pour le moment de mener 3-1. C'est pas encore fini, on attaque les arrêts de jeu, mais comme il y a eu des blessures, et ça va durer un petit peu plus pour cette première mi-temps. Donc 3-1 pour l'Olympique Lyonnais ici face à Sochaux.
Je fais une proposition, Raphaël, s'il se passe honnête, évidemment, s'il se passe quelque chose, tu interviens. S'il ne se passe rien, on se retrouve à 20h.
On fait comme ça.
Avec Eric Silvestro. Et...
mais il va se passer des choses.
On peut aussi en profiter, Christian, pour indiquer à nos auditeurs qu'il y a un énorme match qui se joue en Bundesliga en ce moment entre le Bayern et le Borussia Dortmund. Et que pour l'instant, c'est du 2-2 à la mi-temps, avec un doublé d'Haaland côté Dortmund, un doublé de Lewandowski côté Bayern Munich. Donc c'est un peu de la Ligue des Champions dès ce soir-là.
Quelle polyvalence, Philippe Sanfourche. Moi, je reviens très prosaïquement à la Coupe de France. J'ai envie de vous donner les résultats. Il y a des surprises quand même pour tous ceux qui nous rejoindraient en cours de route. Vraiment, la grosse surprise, incontestable. Les grosses surprises, il y en a deux en vérité. C'est le Red Star, club de National, qui élimine Lens, club de Ligue 1, 3-2. Et le Puy, club de National 2, qui élimine Lorient, club de Ligue 1, sur le score d'un but à 0. Pour le reste, Montpellier se qualifie aux dépens d'Alès par 2-1. Rumi-Vallière, National 2 quand même, se qualifie aux dépens de Annecy, club de National 1. Un but partout, fin du temps réglementaire, City rebute à 5. Et je m'en voudrais de ne pas vous donner le résultat de Saumur, car je vois circuler sur les réseaux sociaux les tweets d'Isabelle Langer, qu'on connaît bien ici, et qui est d'originaire du coin. Saumur, National 3, a eu beaucoup, beaucoup de difficultés, mais s'est qualifié aux dépens des Bretons de l'US Montagnard, club de Régional 1. 3 partout à la fin du temps réglementaire, alors que les Bretons menaient 2-0 quand même. Et 4 tirs au but à 3. Voilà. Et donc, Lyon-Sochaux, on l'a dit, 3-1, et Brest-PSG à 21h10. Rennes. Alors, Genesio, cette fois-ci, a signé. Genesio rejoint Florian Maurice. Les deux hommes s'entendaient plutôt bien.
Très bien, même.
À Lyon. D'où cette question un peu simple, finalement. Florian Maurice, directeur technique, plus Bruno Genesio, nouvel entraîneur du Stade Rennais. La page Julien Stéphan est définitivement tournée. Est-ce que le gang des Lyonnais qui se reconstitue est une gage de sécurité pour le Stade Rennais? Votre avis?
Plutôt oui, moi j'aime bien l'idée effectivement qu'il y ait une proximité, une vision commune entre le directeur sportif et l'entraîneur. C'est clairement le cas avec ces deux hommes. Surtout là avec un entraîneur qui débarque en cours de saison, on a encore vu dans l'excellent Parisien, comme disait Coluche, l'étude qui confirme une fois de plus que les changements d'entraîneur ne servent à rien. On a quand même des présidents qui s'amusent à changer de coach. Et comme ça fait 20 ans qu'on le dit.
Ah là, c'est le coach qui est parti.
Oui, là, pour le coup, c'est vrai que c'est
ils n'ont pas eu leur mot à dire.
Ils n'ont pas eu leur mot à dire. Enfin, ils auraient pu essayer peut-être de le retenir un peu.
Ils ont essayé. Bon,
ils ont accepté, effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, quand on focalise souvent sur l'entraîneur, la réalité, c'est que il y a beaucoup de très bons entraîneurs, il y a très peu de top coach, et que la plupart, c'est plus une question de contexte, justement d'osmose avec le projet, avec les joueurs, avec le directeur sportif. Et que là, le fait que le directeur sportif ait pu le choisir, qu'ils aient une vision commune, etc., ça me paraît aller dans le bon sens, surtout qu'effectivement, on parle souvent de l'ADN un peu du coach, on a plutôt l'impression qu'il est plutôt compatible avec...
c'est plutôt un club, certains vont dire aseptisé, mais c'est un club qui ne fait pas de vagues, où il n'y a pas une déclaration plus haut que l'autre, où l'actionnaire, M. Pinault, lui aussi, est extrêmement discret et n'aime pas tout ce qui est tapageur et tape à l'œil. Donc là, Genesio, il rentre parfaitement dans le dress code. Après, il y a un truc passionnant. C'est, pour moi, il est attaché à Lyon. C'est l'homme de Lyon. Et j'ai envie de savoir s'il peut réussir ailleurs. Parce qu'il était très identifié à la formation lyonnaise. Il a vécu toute sa carrière à Lyon comme adjoint de Rudy.
Et pour toi, est-ce qu'il a réussi à Lyon ?
Pardon ?
Est-ce qu'il a réussi
pour
à
moi,
Lyon ?
Pour moi, il a été un très bon entraîneur de Nantes. De Lyon.
Non, pas encore. Nantes sera bientôt.
Il a été un très bon entraîneur de Lyon.
Et son style de jeu, c'est quoi ? C'est la possession de balle.
C'est la possession, c'est un style offensif.
Une forme de déséquilibre.
Je trouve qu'en
mais avec un effectif solide à Lyon. Oui. Est-ce qu'il a le même effectif à Rennes ?
Non. En tout cas, réussir ailleurs. Moi, j'ai un doute sur le fait que Genesio puisse réussir ailleurs qu'à Lyon.
Ah bon ?
Mais oui, parce qu'il y a des clubs comme ça où vous êtes un peu attaché toute votre vie. Vous voyez, Hubert Fournier, après il est devenu DTN, on l'a pas revu ailleurs que. Il y avait une carrière avant. Rémy Garde, depuis qu'il a quitté Lyon, il y a quand même comme ça.
Comment ça s'explique ça d'ailleurs ? Ça s'explique.
Non mais Dominique, est-ce que ça ne tient pas plus à la qualité de l'effectif que ça s'est bien passé quand même. À Lyon, quand t'es à Lyon.
Tu sais qu'au Bayern, on n'aime pas trop le passage de Guardiola.
Ouais, mais quand tu. Là, tu prends l'exemple de Lyon ou du Bayern, c'est des clubs où tu as, quoi qu'il arrive, un effectif de top niveau. Donc après que tu réussisses pas ailleurs, ça peut aussi s'expliquer plutôt par le fait que tu n'as pas eu la même matière première non plus pour travailler.
Si on en croit l'étude, c'est surtout les joueurs qui font les
résultats. Justement, la question, est-ce qu'avec Rennes, il aura les mêmes atouts qu'il avait avec
Lyon ? Non, c'est forcément différent.
Non, différent, d'accord.
Il a quand même le sentiment que c'est un coach qui n'a pas fait qu'une saison à Lyon. Il a quand même travaillé sur la longueur. Il a montré à la fois sur le rythme du championnat. Je suis pas un dingue des stats, mais il y en a quand même une qui, à mon avis, est assez parlante, c'est que derrière Laurent Blanc, c'est l'entraîneur qui a le meilleur taux de victoire en Ligue 1. C'est pas rien, ça, quand même. Mais c'est pas sur 15 jours, c'est sur plusieurs saisons. Donc ça veut dire quand même qu'il est capable d'imprimer sa patte sur la longueur d'un championnat. Et il a aussi été capable de faire des très gros coups en Coupe d'Europe. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai eu la chance d'être à Manchester City le jour où il a fait un match absolument fantastique et où il y a des joueurs qui se sont... exprimés et qui sont montés en puissance, n'en déplaise aux supporters lyonnais, comme Oussem Aouar ou comme Maxwell Cornet, sous la patte, la houlette de.
Alors j'aurais pu poser la question différemment. Est-ce que Genesio est sous-coté, Florian Gazan ?
Moi je trouve qu'il est sous-coté et qu'il a été victime de tout contexte lyonnais qui l'a absolument écrasé. Et quand on regarde vraiment avec un peu de recul ce qu'il a fait, franchement, il a obtenu des super résultats. Je trouve que Lyon était quand même assez agréable à jouer à l'époque où il l'était. Alors les Lyonnais, mais pas trop, parce qu'effectivement il y avait une forme de déséquilibre. Donc pouvait gagner ou se prendre une raclée. Bon, les supporters n'aiment pas trop ça, mais vu de l'extérieur pour nous, c'était quand même plutôt agréable à regarder.
Attends, Florian, c'est ce qu'on nous explique maintenant. Il paraît que c'est le football moderne maintenant. C'est pas grave de perdre, pas grave de se prendre une pile. Pour peu que l'équipe de France, pas l'équipe de France justement, tout le contraire de l'équipe de France qui sert le verrou.
Je dis que les supporters n'aiment pas trop ça, mais quand on aime le football, c'était quand même plutôt agréable. Il a réussi à faire quand même progresser des jeunes de la fameuse académie. Il a quand même réussi à développer des joueurs qui ont progressé. Il y a eu quand même des très grosses ventes qui ont été faites sous Genesio par l'OL, ça veut dire quand même qu'il a bonifié des joueurs. Alors oui, par moment, peut-être qu'en Coupe d'Europe, à part Manchester, ça n'a pas été foufou. En Coupe, il lui manque d'avoir gagné quelque chose, je pense, Genesio. Il aurait peut-être pu gagner une Coupe de France, notamment. Il ne l'a pas fait. Donc moi, le seul point noir que je vois à son passage, c'est plutôt sur les trophées.
Et alors là, on parlait des supporters tout à l'heure. Là, je n'ai pas compris du tout la réaction sur les réseaux sociaux que Genesio déclenchait. Je n'ai pas compris qu'il soit la cible d'attaques incessantes et violentes. Je ne comprends pas
cette communication. C'est là où on voit que c'est un petit monde parallèle qui ne représente pas la réalité.
Ça avait l'air d'être important puisque Jean-Michel Aulas a dû le défendre. Jean-Michel
Aulas est à hauteur de quelques milliers de personnes, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la société française, c'est quand même un épiphénomène.
J'espère que ça ne l'a pas marqué parce qu'il ne méritait pas ça. J'espère qu'il va pouvoir à nouveau s'exprimer. Moi, je trouve que ses conférences de presse étaient bonnes. On y parlait foot. Il s'exprimait bien. Moi, je suis content de le revoir en Ligue 1, Bruno Genesio, parce que c'est un entraîneur qui me passionne.
Je t'ai posé la question sur les supporters lyonnais parce qu'il y a des supporters rennais qui commencent également à s'exprimer sur les réseaux sociaux parce parce que dans le microcosme du Stade Rennais, il y a un garçon qui s'appelle, alors il faut vraiment connaître le Stade Rennais, c'est Mathieu Lescornet, qui travaillait avec Julien Stéphan, qui est vraiment un breton pur et dur, qui a été supporter, qui a fait toutes les étapes au sein du club et qui travaille avec le centre de formation. C'est lui qui a notamment découvert Camavinga qui était à Fougères, c'est pas loin de Rennes d'ailleurs. Et l'une des premières décisions sur la réorganisation, c'est de mettre de côté Mathieu Lescornet. Donc voilà, ça crée un petit émoi au sein des purs et durs supporters du Stade Rennais.
Oui, quand il y a une équipe qui se met en place, il y a toujours, même si tu ne viens pas avec un staff démesuré, il y a toujours une réorganisation.
Un seul adjoint d'ailleurs.
Et
pour lui, hein.
Forcément, il peut y avoir aussi des déçus. Mmh. On verra à la fin, j'ai envie de dire. De toute façon, cette doublette Maurice Genesio, elle va avoir effectivement une marge de manœuvre qui va lui permettre de travailler comme elle le souhaite. Il y aura certainement déjà des ajustements importants à faire l'été prochain parce que au-delà de ce qu'a pu faire Julien Stéphan dans le vestiaire, sur le choix du mercato de l'été passé, il y a certainement eu des choses qui n'ont pas été menées exactement comme ça aurait dû être. Donc il y a eu une remise en question. Et effectivement, Florian Maurice, j'ai du mal à dissocier les deux.
Ça interroge sur ce que veut faire Pinot de Rennes. On sent que c'est un club, à chaque fois qu'il s'approche du top 4, du top 3 français, il y reste jamais très longtemps. Il flirte un peu et puis il redescend.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas une fin de cycle avec Julien Stéphan?
Ça a été vite quand même. Après, Dominique, là-dessus, 3. C'est une question de moyens aussi, parce qu'on se souvient qu'à un moment, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été injectés dans le club breton, et qu'avec des résultats pas forcément à la hauteur. Donc je pense qu'il est un petit peu vacciné par rapport à ça, et qu'il se dit, l'idée c'est surtout de bien travailler, d'avoir un projet cohérent. Et encore une fois, là, on a plutôt ce sentiment-là que ça va, il faut leur laisser un petit peu de temps et voir ce que ça peut donner.
À part Marseille aujourd'hui qui est pas dans les quatre premiers du championnat, il n'y a pas énormément de surprises, c'est l'ordre éventuellement surprenant, mais Lille, Paris, Lyon, Monaco, c'est à peu près ce qu'on pourrait attendre chaque saison et éventuellement Marseille. Rennes n'arrive pas durablement à s'installer dans les hauteurs du classement. Alors on avait l'impression qu'ils flirtaient là, qu'ils étaient en train de s'installer un petit peu. Camavinga rentrait en équipe de France, il était pisté par le Real Madrid. Il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'histoire de Rennes qui étaient pistés par le Real Madrid. Donc on sentait qu'il y avait comme ça un frémissement et hop, ça retombe.
Et ça retombe, ça a changé de président. Et aussi apparemment le Monsieur Pinot père a repris un peu la main par rapport à Monsieur Pinot fils. Donc aussi c'est une vision un petit peu différente du Stade Rennais, peut-être un peu plus patrimoniale,
C'est quoi leur ambition?
Mais leur ambition, je pense que c'est tout simplement de pas faire de vagues, de pas forcément avoir des ambitions extrêmement très élevées. Enfin, ça fait des années que Rennes était 7e et tout le monde était content.
Mais attention, il y a quand même eu ce qui a été un événement au niveau de l'histoire du Stade Rennes, c'est cette victoire en Coupe de France au Paris Saint-Germain, avec justement un Julien Stéphan qui était arrivé pour une fois, pas comme un entraîneur qui disait machin, on verra, on n'est pas fort. Il a regardé le PSG dans les yeux et il a gagné. Et ça a rendu fier tous les supporters rennais, bretons, qui depuis des années attendaient cette victoire et qui d'un seul coup se sont retrouvés dans cette équipe. Il y a eu un appel d'air, ça a créé quelque chose autour
Philippe,
de cette équipe.
Pourquoi je t'ai parlé de fin de cycle, Philippe Sanfourche, tout à l'heure, ça doit faire 3 saisons, Julien Stéphan, c'est que visiblement il n'était plus déjà audible dans les vestiaires.
Mais il n'est pas resté mais si
ça, j'ai l'impression que c'est quand même un phénomène. Là, ça dépasse largement le cadre du Stade Rennais. On s'aperçoit qu'à tous les niveaux, c'est l'histoire de Thomas Tuchel aussi au Paris Saint-Germain. C'est l'histoire de beaucoup de coachs qui, même avec beaucoup d'implication et en ayant à un moment donné eu l'ensemble du vestiaire avec eux et une dynamique positive, à un moment donné, perdre le fil parce qu'aujourd'hui, un vestiaire, c'est compliqué.
57 matchs sur le banc, la moyenne en 20 ans. Un entraîneur reste 57 matchs sur le banc depuis 20 ans en moyenne.
Donc après la République des supporters ou des ultras évoqués tout à l'heure, la République des joueurs maintenant.
Eh ben dites donc.
Ou des présidents
qui ont le limogeage facile. Parce qu'on a toujours quand même ce sentiment qu'à un moment, il faut agir. Il faut faire. Ça ne va pas, il faut agir. Donc le plus simple, la seule solution, c'est l'entraîneur. Mais encore une fois, on sait que ça ne sert à rien.
Bon, est-ce qu'il est parti encore une fois, rappelons que Julien Stéphan décide, estime à un moment donné qu'il n'a plus les mots pour pouvoir mener et qu'il sent qu'il n'a plus de prise sur ses joueurs. Et c'est lui qui
se dit peut-être que ça s'inscrit aussi dans un climat général qui est que il faut, parce qu'on parle de ça sur 10 matchs, je veux dire finalement sur les 3 ans de Stéphan.
C'est un travail de titan, entraîneur. C'est un travail de titan sur le plan tactique, sur le plan de la gestion des émotions, des joueurs. Moi j'ai le souvenir d'avoir eu une longue discussion avec Julien Stéphan qui date déjà. Après leur élimination en demi-finale de Coupe de France, le fameux match à Saint-Etienne, quand il y a, juste avant, quelques jours, hein, je crois, avant le confinement, où il y a cette image formidable du public stéphanois qui rentre sur la pelouse, qui fête cette qualification pour la finale. Et j'avais longuement discuté avec Julien Stéphan après cette rencontre. Et je m'étais fait la remarque de me dire que je le trouvais déjà
usé,
hyper investi, mais fatigué. Il s'en cachait pas. Parce qu'en fait, quand tu es coach à plein temps et que tu t'investis comme ce genre de garçon ultra professionnel le fait, c'est 20 heures sur 24,
c'est
7 jours
c'est
sur 7.
C'est le pire métier du football.
Il y a un moment, tu fais le pire métier du football.
Est-ce qu'il n'a pas été aussi trop gourmand, Julien Stéphan? Parce que quand même, à Rennes, bon, on se souvient des histoires avec l'étang, il a quand même voulu avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir et de poids. Et il y a un moment peut-être aussi qu'il a été trop gourmand et qu'il a été, il s'est auto-dévoré. En fait.
Avec l'étang, il faut souvent marquer son territoire.
Hein. Bon, c'est messieurs, en tout cas, Bruno Genesio, parce que là, c'est maintenant, vous me parlez de Stéphan, mais c'est Genesio, l'entraîneur de Rennes désormais. C'est le spécialiste des remontadas.
Oui, il avait fait avec Lyon pour décrocher les champions.
2015-2016, en cours de saison.
Ouais.
De la 9e à la 2e place. Et en Chine, de la 3e à la 2e place.
Ah, je suis un peu moins ça.
Il reste 10 journées. Ouais. Le temps qu'il prenne ses marques, je pense qu'on va...
Avec un record de points en Chine, hein, 70
oui.
points.
Ah oui, mais ça c'est impressionnant.
Vous n'avez pas parlé de Florian Maurice.
On ne vous a pas parlé de la Chine non plus.
Non, Florian Maurice, il pouvait actionner tous les leviers du pouvoir quand il était à Lyon, parce que là, j'entends la petite musique, Florian Maurice, c'est ce
À Lyon, il ne pouvait pas.
Non,
à Lyon, il ne pouvait pas.
Voilà. Mais à Rennes
Il n'a pas le même poste déjà.
Directeur technique.
Ouais.
Technique sportif.
À Lyon, il était au recrutement. C'est parce qu'il n'a pas pu devenir directeur sportif qu'il est parti. Il a quand même un peu plus
de poids. Le pouvoir, de toute façon, à Lyon, quoi qu'il arrive. Il y a Jean-Michel Aulas au-dessus de lui.
Oui, mais enfin, il aurait allé les coudées un petit peu plus franches. Hein, et on lui aurait proposé le poste de Juninho. Il sera encore à Lyon, hein, Florian.
Donc, il est parti parce que Juninho est arrivé.
Bon, la question, c'est de savoir si c'est la bonne solution, si le gang des Lyonnais va pouvoir
redresser. Le gang des Lyonnais, il y a une connotation quand même un petit peu inquisitrice, là, j'ai l'impression.
Un peu Olivier Marchal.
Vous êtes.
On en profite pour souhaiter un prompt rétablissement à Nicolas Hollweg, le président du Stade Rennais, actuellement hospitalisé. Non, le gang des Lyonnais, c'est un raccourci évidemment journalistique. On a tout dit sur.
Vous avez peur que la quenelle prenne le pas sur la galette
saucisse. Je parle du gang des Lyonnais, je vous ai parlé de Rachid Zeroua tout à l'heure.
Un petit tablier de sapeur,
19h47, la publicité, et si on a à peu près tout dit, non ? Les tirs au but ?
On a été complet, excellent.
Attention. Les tirs au but, vous le savez, hein. Là, il va falloir être solide, car les faibles, à la trappe.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Allez, encore 10 minutes d'On refait le match avant 20h23, RTL Foot spécial Coupe de France, et notamment, mais pas seulement, l'intégralité de Brest-Paris-Saint-Germain. Vous retrouvez toute l'équipe du vendredi soir, du samedi soir, du dimanche soir. J'ai nommé évidemment Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin et Raymond Abou, et vous tous, bien sûr, avec vos messages et votre participation dans cette deuxième émission du soir, 100% interactive, elle aussi. Un point sur la Coupe de France, mi-temps, reprise dans quelques instants, peut-être Raphaël Vantard entre Lyon et Sochaux.
Non, on a pris un petit peu de retard. Ici au Groupama Stadium, les joueurs sont en train tout doucement de revenir sur la pelouse, et toujours donc 3-1 hein. Lyon qui a fait le break en fin de mi-temps avec un troisième but de Ryan Cherki après les buts de Ben Lamry et de Cornet contre un but de Bédia côté socialien. 3-1, Lyon maîtrise pour l'instant ce 16e de finale de Coupe de France.
Merci. Et dans le fameux match entre le Bayern et Dortmund, Philippe Sanfourche,
il y a toujours 2-2 à une demi-heure de la fin, et Erling Haaland vient de sortir du terrain
blessé.
Non, j'ai eu un remplacement.
C'est réservé. Assez étonnant. Une heure de jeu, il sort déjà.
Ouais.
Tiens pas là.
Préservé peut-être.
Ouais. Alors messieurs, les tirs au but, vous le savez, c'est une séquence où on évoque toute l'actualité, actualité improvisée avec des questions que vous découvrez au fur et à mesure. Et dans cette séquence, vous le savez aussi, les plus faibles sont éliminés au fur et à mesure. Malheureusement, et ça vraiment, je suis triste ce soir, pas de Ligue 2. C'était Coupe de France. J'essaie de vous le dire, j'essaie de vous faire
réviser,
passionner sur la Ligue 2, de vous intéresser à la Ligue 2. Je vous encourage, je vais profiter cette semaine, ce week-end également à réviser. Et puis on reviendra avec une actualité Ligue 2.
Je suis devenu fan de Clermont. Parce que maintenant,
c'est contagieux aux Parisiens aujourd'hui en France, parce que c'est la même chose avec.
Comment il s'appelle ?
Comment s'appelle-t-il ?
Bruno Lallemand ?
Ah non, je confonds avec Tarago.
Ah oui,
je confonds avec Tarago.
Non, mais lui, il est là-bas, c'est différent. Il est Auvergnat.
Vous vous êtes donné le mot ?
Non, pas du tout. Je suis pas Auvergnat et je suis fan de Clermont.
Bon, écoutez, c'est une belle équipe.
Eh bien oui.
Mais touché par le coronavirus.
Ah ben.
Sévèrement.
Bon. Donc pas de Ligue 2. Alors des questions que j'ai eues pas trop de temps à préparer, donc quantitativement. Quantitativement, elles sont là. Qualitativement, je vous demande d'être indulgent, même si l'indulgence, c'est le début, évidemment, de la faiblesse, comme chacun sait. Alors, tiens, une petite question au dépoté, comme ça, au déboté. Manchester City. City est-elle actuellement la meilleure équipe au monde ? Oui ou non ? Ah oui, mais alors là, vous êtes tous faibles.
Non, on fait des petits pas là justement comme Neymar, puis paf, ça part d'un seul coup.
Philippe Sanfourche.
Bah, moi je vais dire non, parce que je pense que c'est le Bayern actuellement, la meilleure équipe du monde, parce qu'elle l'a prouvé en portant avec des champions, en faisant une saison absolument exceptionnelle. City est en train de le devenir, parce que Guardiola a fait quand même pas mal de changements, mine de rien, cette année sur la façon de jouer de son équipe. Pour l'instant, voilà, moi j'attends de voir. En championnat d'Angleterre, ils se trimballent. J'attends de les voir sur la Ligue des Champions. C'est là où on va voir vraiment si c'est éventuellement, potentiellement, la meilleure équipe du monde. Mais pour moi, ça reste encore le Bayern qui me semble plus complète, plus costaud et plus expérimenté au très très haut niveau.
Mais avec des résultats un peu plus irréguliers quand même du côté du Bayern.
Ouais. Il y a 3 défaites en championnat pour le Bayern. Mais c'est vrai que City, là où c'est un peu difficile de comparer, c'est qu'il y a une densité en Première Ligue qu'il n'y a pas nulle part ailleurs sur la planète.
Enfin, donc, la densité, demain, excuse-moi, tu as City contre United, il y a 14 points d'écart entre les deux équipes.
Oui, mais il n'empêche que justement, c'est encore, ça dit encore plus du parcours de Manchester City.
Même s'il y a une grosse densité, moi j'estime que Manchester United s'améliore d'année en année, mais n'est pas encore au niveau des plus grands. Chelsea est dans une période de transition, ok, Tuchel vient d'arriver, mais on a vu que les gros transferts n'ont pas encore donné satisfaction. Enfin, ce n'est pas le Chelsea qui a été un potentiel vainqueur.
Il les a remontés
quelques années.
Il les a mis dans le
cadre. Oui, d'accord,
mais je veux dire, entraîneur, ça.
Aujourd'hui, effectivement, Manchester City
et Liverpool pique du nez
parce que usure peut-être usure, aussi d'une méthode, cycle. Parce que des grosses Van Dijk, des blessures importantes de cette saison, voilà, qui font qu'il y a une conjonction d'événements qui amène City à rester au top. Maintenant, le juge de paix, encore une fois, ce sera la Ligue des Champions, et c'est là où je suis d'accord avec Florian, c'est que depuis maintenant 2 ans, le Bayern nous montre que c'est l'équipe la plus solide. Et derrière, eh bien, il y a 3-4 équipes qui sont en capacité de pouvoir les embêter. Et le Paris Saint-Germain en fait partie.
Non, mais City, c'est le premier d'un championnat où le deuxième n'a pas réussi à sortir d'un groupe où il y avait Paris et Leipzig. Donc, on va attendre, comme l'ont dit les autres, la Ligue des Champions.
Ok. Alors, cette question, elle me fait marrer. Qui, selon vous, en France, est un mélange de Xavi et Iniesta ? Qui, à votre avis ?
Ouf. Qui est un mélange de Xavi et Iniesta.
Il existe forcément ou
Marco Verratti.
Marco
Verratti.
Marco Verratti, c'est le premier qui vient.
Non. Si je vous dis ça, c'est que je me base sur une déclaration.
Oui, ben.
Et je dois dire que sur ma gauche, même sur ma droite finalement, vous devriez savoir qui a formulé cette phrase.
Donc c'est Pochettino.
Totalement absurde, je vous le dis tout de suite. Totalement absurde.
Redites la phrase.
Alors, qui, selon vous, en France, est un mélange de Xavi et Iniesta?
Je dirais Renaud Ripard, moi, mais bon, je serais de parti pris.
Alors, je vous donne son prénom.
Oui.
Édouard Michu?
Oui. C'est ce qu'a dit son agent.
Ah oui, son agent.
Moi, ma mère, elle a dit que j'étais un mélange de Ricky et de Nikos. Hein.
Alors là, par contre,
elle m'a dit que je ressemblais à l'un.
C'est pas un cadeau de la part de son agent, quand même.
Mais voilà, c'est là où je voulais en venir.
C'est le genre de déclaration qui vous suit pendant des années. Enfin, comment mettre de la pression sur un jeune joueur qui vient tout juste à 17 ans de disputer son premier match en pro.
De rentrer.
Ses premières minutes en pro.
89e minute.
89e minute. À la moindre contre-performance, on va lui ressortir. Enfin, je comprends pas qu'on puisse faire une erreur de.
C'est contre-productif un peu, oui.
Il faut après, que Mme Michu siffle à la fin de la partie.
espérons qu'il ne lise pas.
On connaît pas le point de Mme Michu, c'est peut-être pas Mme Rabiot, Mme Michu.
Souvent, on nous dit que les joueurs ne lisent pas, on espère qu'il n'a pas vu tout ça, quoi, qu'il n'a pas lu, qu'il ne le sait pas et qu'il va continuer à jouer.
Il est bon, le gamin, ou pas là? Parce que je ne l'ai jamais vu jouer. Je n'ai pas vu ces dernières minutes.
Il fait des bons entraînements, parce que c'est pas sur une minute à Dijon que je vais vous.
Mais non, mais on est incapable de le situer, et encore moins à ce niveau-là. Enfin, je veux dire,
c'est son agent qui l'a dit.
Juste vous rappeler quelque chose quand même, Christian, c'est que quand Marco Verratti est arrivé, nous a expliqué que c'était le nouveau Pirlo. Bon, jusqu'à présent, c'est pas le nouveau Pirlo.
Alors pourquoi c'est Xavi? Parce qu'il est intelligent. Ah. Et pourquoi c'est Iniesta? Parce qu'il sait se projeter.
D'accord. Mais par contre, physiquement, c'est pas Busquets encore. Je crois qu'il bosse un peu. Hein.
Non, mais ça rend pas service au joueur.
Non. Maladroit.
Allez, un autre tir au but. L'Angleterre. Vous savez, l'Angleterre pourrait bien organiser la totalité du prochain championnat d'Europe. Mmh. Boris Johnson, Premier ministre anglais, a fait savoir qu'à partir du 15 juin, tout devrait rentrer dans l'ordre grâce au vaccin. Donc, il a fait une proposition. Info RTL à cela. Nous confirmons les propos de Boris Johnson, mais ça, c'est pas l'info RTL. Il se pourrait que 3 ou 4 villes seulement accueillent d'autres matchs de la compétition, mais pas plus.
Hors Angleterre.
Info RTL.
De l'Angleterre.
Oui. Qui n'ont pas pu être, info qui n'a pas pu être vérifiée auprès de l'UEFA, je le dis tout de suite, c'est une indiscrétion, donc une seule source. Bref, le foot et le championnat d'Europe en Angleterre au mois de juin prochain. Yes or no?
Oh yes! Oh yes, oh, really, really want this thing.
Repasse en français,
Jacques Delors.
Parce que c'est fantastique. Mais non, mais c'est
Jacques
le pays,
Santini.
C'est le pays du foot.
Aussi, ouais.
Je trouve déjà que le modèle, le schéma retenu des 12 pays hôtes, c'est
formidable.
Incompréhensible.
C'était le modèle proposé par Michel Platini était formidable.
Et pourquoi?
C'était à l'occasion de l'anniversaire de l'UEFA, de faire participer une majorité de pays, c'était formidable.
Oui, mais Christian,
évidemment, il y a le coronavirus.
Bah oui, mais ça, on peut pas dire. Le réel est plus fort.
On est d'accord, mais on peut pas reprocher une idée saugrenue.
Mais vous parliez tout à l'heure des supporters. Vous imaginez pour un supporter qui suit une équipe, il devait aller à une chambre d'hôtel à Londres.
Mais il y avait des packages comme ça.
C'est un budget quand même.
C'est pas très éco. Responsable.
En plus, non. La taxe carbone.
Philippe s'en fout.
Là, j'ai l'impression d'entendre Noël Le Graët, Christian.
Il est dans l'écologie, les verts. Alors là, c'est Philippe.
Tout s'effondre. Non,
et avec votre voiture et votre scooter, vous êtes éco-responsable, Philippe s'en fourche. Enfin, non, soyez sérieux.
Il roule très prudemment. Donc déjà,
il consomme pas. Il fait attention.
Non, c'était franchement l'occasion, le 50e anniversaire.
En tout cas,
non, je suis pas d'accord avec ça parce que quand on a la chance d'avoir vécu des compétitions, que ce soit sur le sol européen ou l'Euro du monde à l'extérieur et l'Euro 2016 en France, une compétition, au-delà des performances sportives, elle est aussi marquée par une atmosphère, un moment culturel de partage avec une convergence des autres peuples vers une nation et où on vit au rythme du pays qui... par définition, non.
C'était des sauts de puce, Christian. Vous alliez un peu en Allemagne,
Vous faisiez le procès à Le Graët d'être du vieux monde, etc., mais vous êtes du vieux monde.
Mais non,
avancez, projetez-vous comme
projetez-vous.
Je suis un peu le chenille de.
Si vous faites une compétition partout, vous la faites quelque part nulle part. Excusez-moi.
Après sur le fait.
Je n'écoute pas, c'est pas audible.
Gazon président.
C'est décevant.
Les gazons président, bien sûr.
Non, après sur le fait que ça puisse être organisé cet été en Angleterre, si on pouvait dans la période actuelle connaître un euro avec du public, oui, on signe plus que demain.
C'est quand même un pays où on est bien vacciné.
C'est un pari.
Ça c'est un autre débat.
Personne ne peut le savoir, c'est beaucoup trop tôt.
On fait le match, n'est pas on refait le masque.
Allez, on finit bien.
On va pas tarder, nous dit Boris, à la réalisation. Je vous remercie, messieurs. Merci Florian, merci David, merci Dominique, merci Philippe.
Ciao, ciao.
20h-23h, la suite du foot, évidemment, avec notamment Brest-PSG. 3-1 actuellement pour Lyon, Coupe de France face à Sochaux, après 55 minutes. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.